Le 12-30, Nadine Altiner.
Que se passerait-il si le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui venait à s'effondrer? À quoi ressembleraient nos vies? Que deviendraient nos relations humaines? Eh bien, ces questions sont au cœur de votre dernier roman. Antoinette Richner, bonjour.
Bonjour.
Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes neuchâteloise, vous êtes auteure, autrice de pièces de théâtre. Vous avez également publié plusieurs récits. Ce nouveau roman, il s'appelle « Après le monde », vous publiez chez Buchet-Chastel. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'écrire un livre d'anticipation, un livre sur l'effondrement du monde, justement, ce thème-là?
À vrai dire, le terme d'anticipation, j'ai presque envie de le remettre un peu en question quand j'entends les titres de votre journal. Les inégalités entre États, mais aussi entre individus, la biodiversité en chute libre, on le voit en Australie. Il y a aussi la hausse des conflits armés, par exemple en Libye. Donc tout ça, c'est vraiment des causes d'effondrement qui sont maintenant identifiées par les théoriciens, comme on les appelle, les collapsologues, les théoriciens de l'effondrement.
Et vous aviez envie précisément de toucher à ce thème-là, mais c'est venu de quoi? C'est venu parce que vous avez lu plusieurs livres, je sais que vous êtes pas mal renseigné sur ce sujet, sur cette possibilité, et il faut le dire, votre livre est très réaliste.
Oui, c'est vrai que j'avais envie d'un livre réaliste, d'un livre lucide, qui a peut-être sa dureté aussi, mais je pense qu'il pose vraiment profondément la question de la décroissance, décroissance choisie ou décroissance subie. C'est cette question-là qui m'a poussée à écrire ce livre.
Et ce livre, il fait froid dans le dos parce que quand on le lit, et vous venez d'en parler, on a en tête les incendies en Australie, le réchauffement climatique. En plus, ça se passe, ce livre, ça commence en 2022. Il y a une catastrophe. Vous voulez bien nous raconter le début, ce qui se passe, comment cet effondrement du monde se fait petit à petit?
Oui, alors les personnages, en fait, dont les personnages principaux, on les rejoint dans leur vie plutôt autour de 2030, mais avec des flashbacks et aussi avec ce que j'ai appelé des chants, qui sont en fait des narrations épiques chanté par deux personnages de l'histoire. On revient sur des événements qui ont commencé en 2022 avec un ouragan sur la côte ouest des États-Unis, un problème pour les assurances à rembourser en fait les dommages causés, qui vont commencer à créer des faillites en cascade au niveau bancaire de toute la sphère financière, qui va se transmettre à l'économie réelle, qui va se transmettre ensuite à la sphère politique avec des troubles, des émeutes, des problèmes sociaux. Et finalement, c'est en cascade tout ce qui fait nos bases matérielles qui vont s'écrouler.
Et tout s'écroule, effectivement. Et Antoinette Richner, est-ce que vous pensez que, dans le fond, aujourd'hui, on vit encore dans l'illusion que le monde tel qu'on le connaît, nous, la génération, les générations nées après les années 50, que ce monde-là pourrait ne jamais changer? Est-ce qu'on vit encore là-dedans?
On vit dans un certain nombre de mythes. C'est vrai que j'ai parlé de la décroissance. Je pense qu'on s'accroche à l'idée que la croissance est bonne pour nous. Or, c'est quand même démenti, si je prends un exemple de chiffres lus dans mes recherches. Aux États-Unis, entre les années 50 et les années 2000, le revenu par habitant, il a triplé. Mais le nombre de personnes qui se disent heureuses n'a pas du tout suivi cette courbe. En fait, depuis les années 70, ça a commencé à stagner, voire à descendre. Puis on a des chiffres identiques au Royaume-Uni, au Japon. Donc, ce que ça montre, c'est que passé un certain seuil de développement, le développement, au lieu de nous profiter, il se retourne contre nous. C'est assez facile à imaginer. Si on a mangé un gros repas, un troisième dessert, on aura non seulement on n'aura pas de plaisir à le manger, mais en plus ça va nous rendre malade.
Et puis on oublie aussi que dans l'histoire avec un grand H, il y a eu des effondrements de civilisations. Évidemment, quand on discute comme ça, on pense aux Incas, aux Mayas, c'est d'autres raisons. Vous, Antoinette Richner, vous pensez qu'aujourd'hui on doit s'attendre ou se préparer à vivre un jour une catastrophe telle que vous la décrivez dans votre livre, avec un effondrement comme ça, l'effet domino?
Alors bien sûr, il y a eu des civilisations qui se sont effondrées, même des civilisations très puissantes, qui avaient des techniques très élaborées. Donc non seulement on doit se poser cette question-là, je pense, est-ce que c'est possible que notre civilisation s'effondre comme n'importe quelle autre, mais surtout, je crois que le roman, il pose la question de qu'est-ce qu'on fait, comment on se débrouille avec ça après. Donc c'est pas un roman qui se termine sur un effondrement, mais qui se commence par un effondrement, et comment collectivement on reconstruit. Et je dirais même, parce que finalement le roman, il projette la menace pour peut-être produire une action contre cette menace. Donc on pourrait même anticiper au point d'éviter cet effondrement, c'est ce que je souhaite en tant que citoyenne bien sûr, et de chercher une transition qui ne se fasse pas dans la douleur, qui soit acceptable pour tout le monde. et qui fasse un nivellement positif justement au niveau de ces inégalités.
On va y revenir, mais rassurez-moi, est-ce que vous avez, suite à tout ce que vous avez lu, suite à ce roman, vous avez fait des réserves d'eau, de boîtes de conserve dans la cave aussi comme certains ?
Bien sûr, j'ai eu mon passage de panique survivaliste, mais ça n'a pas duré longtemps. J'ai vite compris que ce qui allait compter en cas d'effondrement, c'est la solidarité et pas le chacun pour soi.
Vous avez dit tout à l'heure qu'il faudrait qu'on revienne à un monde plus juste, peut-être stopper cette croissance, mais revenir jusqu'où, avant la période d'industrialisation du XXe siècle, revenir à comment on vivait au XIXe siècle, ou est-ce qu'il y a des études qui montrent qu'on pourrait vivre, je ne sais pas moi, comme dans les années 50, 60, 70 ?
Il y a des études qui montrent que le niveau de prospérité matérielle universalisable et qu'on pourrait attendre justement de manière durable à toute la planète, c'est environ celui des années 70. Donc, à condition de l'obtenir avec des techniques d'aujourd'hui. Mais donc, on n'est pas du tout dans un scénario de retour à la bougie.
Aujourd'hui, vous savez que le forum de Davos, j'en ai parlé dans ce journal, ouvre, c'est demain. Voilà, toute l'élite mondiale qui se réunit, Greta Thunberg qui fait le déplacement. Qu'est-ce que vous attendez d'un tel sommet en tant que citoyenne, mais aussi en tant qu'écrivaine qui a lu énormément de choses sur la finance d'aujourd'hui, la croissance et le fait que tout est imbriqué comme ça dans ce monde?
Bon, si je pense à la transition, je pense qu'il y a plein de nécessités sociales, en fait. C'est pas le tout de souhaiter une réduction du trafic aérien. Il faut se préoccuper des personnes qui travaillent maintenant dans ces secteurs-là et pas les laisser sans revenus, sans emploi. Donc je pense que c'est là-dessus qu'il faut essayer de travailler. Réussir une prospérité sans croissance, ça veut dire arriver à une économie qui soit stationnaire, mais sans de grands dégâts sociaux. Donc, par exemple, investir massivement pour des reconversions professionnelles, réussir à relocaliser des productions, à avoir des distances entre nos lieux d'habitat et nos lieux de travail qui se réduisent. Donc tout ça, ça monopolise énormément de savoir et de réflexion. Et bien sûr, la question des moyens, on pourrait en discuter encore 2 heures. Mais je pense qu'au-delà de ça, il faut déjà qu'on arrive à tous se mettre d'accord sur quels sont nos objectifs, quelles sont les urgences. Et pour l'instant, ce qui m'inquiète, c'est que ce n'est pas encore le cas, au niveau politique.
On verra s'il ressort quelque chose de ce forum économique mondial de Davos. Mais vous avez souligné, comme ça, dans cette interview 2-3 fois, les questions de valeur, de solidarité. C'est intéressant parce que dans votre livre, on s'aperçoit quand tout a foutu le camp, si je peux le dire comme ça, qu'il y a des valeurs qui reviennent au goût du jour, notamment la solidarité, l'entraide. Et ça, c'est quelque chose d'assez important dans ce livre.
Oui, la solidarité, l'entraide, la coopération, qui est un état naturel. On nous fait croire trop souvent que l'état naturel de l'être humain, c'est l'égoïsme, la recherche du profit personnel, mais c'est pas vrai. Et puis vous avez, je crois, parlé aussi dans vos titres de l'égalité homme-femme, elle est importante aussi.
J'allais vous poser, ça allait être une question, parce que ce livre, ça c'est assez génial, il est écrit en partie au féminin pluriel, ce sont des femmes qui racontent, dans chaque chapitre, c'est un autre prénom. Et puis à un moment donné, elles se disent, oulala, mais féminin pluriel, est-ce que les gens vont comprendre ce qu'on chante, parce qu'elle chante beaucoup dans ce roman. Il y a beaucoup d'oralité. C'est un choix politique, ça, hein ?
Tout à fait, oui. C'est vrai que depuis le 20e, il y a des autrices, des femmes qui ont retrouvé l'accès à ces fonctions d'autrice, mais néanmoins, il faut se souvenir qu'on hérite de siècles d'une littérature écrite par des hommes, où les femmes, elles étaient décrites comme des objets un peu décoratifs, la rose quand c'est une jeune fille, puis l'objet d'horreur quand c'est une vieille femme. J'ai envie de contribuer à une littérature qui montre le monde depuis les yeux des femmes, donc des femmes sujets. Et puis ça ne veut pas dire que je renonce au corps, en fait, je décris aussi des phénomènes physiologiques comme les règles, mais vécues de l'intérieur. Et puis je parle des activités des femmes, je parle leur vie aussi indépendamment du fait de leur état civil, est-ce qu'elles sont mères, mariées ou je ne sais quoi.
Et ça se lit très très bien, d'ailleurs on oublie complètement vraiment que c'est du féminin pluriel, même dans le bouquin d'ailleurs, un homme leur dit non, moi je n'ai même pas remarqué que c'était au féminin pluriel, il faut le lire, ce livre Après le monde, c'est le titre donc de ce roman publié chez Buchet Chastel. Antoine Trichter, vous allez le dédicacer ce livre, ce sera le 23 janvier, donc ce jeudi à la librairie L'Étage à Yverdon, et puis il y a une rencontre aussi, il y a une lecture qui est prévue le jeudi 30 janvier et le samedi 1er février au théâtre ABC à la Chaux-de-Fonds, j'ai tout dit?
Oui, et une lecture canapé à Lausanne le 9 février. On peut trouver ça sur mon site www.toinette.ch.
Et voilà, vous avez fait le boulot. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée. Puis on fait un point météo. Ça sera vite résumé puisque le temps sera bien.